EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes en train de clôturer la semaine du bilan, la semaine pour laquelle on s'est demandé qu'il fallait, on se dit qu'il est important de s'évaluer pour évoluer. On apprend le bilan, on a appris que le bilan est une pratique biblique. On a aussi appris qu'on pouvait faire un bilan personnel, on a appris comment il faut faire un bilan de couple, on a appris comment il faut faire aussi un bilan en se positionnant en tant qu'un leader spirituel, une personne qui influence les autres, en regardant notre vie comme ça. Parce que des fois, en tant que serviteur, des fois, on ignore que nous sommes d'abord, nous, l'instrument principal que Dieu veut utiliser. On veut clôturer cette semaine, il faut qu'on parle quand même d'un éléphant au milieu de la salle et de la pièce. C'est un sujet dont on n'aime pas trop parler, mais pourtant, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle en famille, à l'église, surtout personnellement, ce domaine appelé finance. Comment on évalue personnellement sa vie financière? Parce qu'en réalité, lorsque l'argent est à sa place, il n'est pas Dieu, il ne prend pas la place de Dieu, il ne vous empêche pas d'évoluer. Quand vous laissez l'argent à sa place, votre cœur est en paix. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. L'argent n'est pas la seule chose dont on doit prendre en compte lorsqu'on veut parler du domaine financier de la vie d'un chrétien, d'un disciple de Jésus. Certes, finance, argent, ça rime direct. Mais je vois ici toutes les ressources que Dieu nous a données. Elles sont pas seulement financières, elles sont aussi des fois matérielles, ainsi de suite. Tout ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur la terre, vivre, manger, t'habiller, faire des interactions, posséder, échanger. À un moment donné, il faudrait évaluer et faire un petit bilan sur ça. Chrétien, frère, sœur, quand vous faites un bilan sur votre vie spirituelle, votre vie de prophétie, ainsi de suite, faites aussi un bilan sur votre vie financière. Parce que vouloir ou pas, l'argent est l'un des sujets importants dans nos temps de prière. Une des raisons principales de fréquenter une assemblée. L'argent est tellement au quotidien, dans notre vie. De fois, on essaie de donner l'impression que non, on est spirituel, on n'y pense pas. Or, la réalité est que c'est dans nos prières, c'est dans nos séminaires, c'est dans nos déclarations, c'est dans nos livres. Le besoin de échanger, posséder, de faire grandir ses possessions, d'avoir assez de ressources, le besoin de l'argent, bref, tout le monde en a besoin. Et comment on a géré son argent fait partie de notre rapport que l'on rendra à Dieu. Pas les billets de banque, mais les ressources. Comment on a géré ce que Dieu nous a donné? Ça fera partie de notre rapport devant lui. Et on doit apprendre à faire soi-même ce rapport mi-parcours, à évaluer où est-ce qu'on en est dans le domaine financier. Alors pour ça, première des choses à faire, comprendre ce que j'appelle ici la théologie de l'intendance. La théologie de l'intendance, c'est-à-dire comment Dieu se révèle à nous pour nous montrer la responsabilité de protéger ce qui est à lui. Qu'est-ce que Dieu nous révèle de sa personne sur la bonne gestion? Un Dieu qui gère bien. On doit comprendre ça. On doit comprendre que Dieu lui-même est un bon gestionnaire de ses ressources. Ce qui signifie que ça nous permet de placer une connexion réelle entre ce que nous avons dans notre main et ce que nous avons dans notre cœur. Il y a une connexion entre la partie invisible de nous et le matériel que nous gérons. Il y a une connexion entre notre cœur et les billets des banques. Je résume ça comme ceci. Nos choix d'argent révèlent notre cœur. Le choix que tu fais dans l'usage de l'argent que tu as révèle l'état de cœur que tu as, révèle même l'état d'esprit que tu as. Ce que tu fais de ton argent me dit qui tu es à l'intérieur. Es-tu dépensier? Es-tu orgueilleux? Ces choses-là, tu les fais avec l'argent. Psaume 24, verset 1 dit, « À l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qui l'habite. » Vous voyez, tout appartient à Dieu. En réalité, nous ne sommes que des intendants. La théologie de l'intendance veut dire Dieu lui-même gère très bien ce qu'il a et il nous a placés, nous, gestionnaires de ses avoirs. Ça signifie que tout appartient à Dieu et il nous a placés, nous, pour gérer ce qui lui appartient. Ton argent appartient à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs ou des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle, mes frères. Dieu nous a placés dispensateurs, gestionnaires des avoirs que nous avons. Ton argent n'est pas à toi, ton salaire n'est pas à toi, tes bénéfices ne sont pas à toi, ta voiture n'est pas à toi. Tout ce que tu as là, Dieu t'a donné pour gérer, parce que tout lui appartient. Et il attend un bon rapport. Comment pourrais-tu faire un bon rapport si toi-même tu ne fais pas des petites évaluations? Si toi-même tu ne collectes pas des données de sorte à les rassembler et à veiller dessus? Deuxième chose. Santé financière. Je parle de budget, dette et des marges qu'il faut avoir. Lorsqu'on parle d'évaluer, de faire un bilan financier, non seulement que vous devez vous souvenir que Dieu a fait de moi un intendant, vous devez aussi vous souvenir et ouvrir grand les yeux dans le domaine appelé la santé financière. Parce que c'est ça que vous allez évaluer. La santé financière, c'est pas comment votre argent aide votre corps. La santé financière, c'est comment vont vos finances. En amont, pendant que vous les exécutez, et en aval. Quelle est votre intelligence en termes de budget? Quelle est votre intelligence en termes de dette? Quelle est votre intelligence en termes de marge? Comment vous gérez les choses avant de les avoir? Comment vous gérez ce qui n'est pas à vous que vous prenez de chez quelqu'un d'autre? Et comment vous gérez les avantages que votre investissement financier vous a donné? Le secret de la vie, c'est que on ne doit rien à personne si ce n'est l'amour. C'est ce que la Bible dit. Ne doit rien à personne si ce n'est l'amour. Budget, dette et marge, je dois vous dire une chose en particulier, c'est cette phrase, ce mot-là qui est tout au milieu, entre budget, dette et marge, dette. Ne doit rien à personne. Aussi longtemps que cela dépend de toi, quand je dis à personne, y compris à la banque, ne doit rien à personne. Proverbe 27, 23 à 34. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car les trésors ne durent pas toujours, ni une couronne éternellement. L'homme de Proverbe dit, sois un bon gestionnaire de ce que tu as, parce que les ressources dans la vie ne sont pas éternelles. Tu ne seras pas tout le temps riche comme ça. Tu n'en auras pas tout le temps comme ça, comme tu penses. Alors il faut bien gérer les choses. Romains 13, verset 8 dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Comment vont tes dettes? Quel est ton degré d'aisance dans la budgétisation? Est-ce que tu es à l'aise à parler chiffres avant d'en sortir? Avant de sortir l'argent, est-ce que tu es capable de savoir combien tu vas sortir bien avant? Que fais-tu des marges? Est-ce que tu travailles pour obtenir des marges ou pas? Est-ce que tu utilises ton argent pour qu'il te permette de gagner de l'argent? Troisième chose qu'il faut regarder lorsqu'on veut faire un bilan financier. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, cœur et générosité. Quand vous parlez finances, je vous ai dit tout à l'heure que notre cœur est lié à nos dépenses. Quand vous voulez faire votre bilan financier, posez-vous cette question aussi. Où en est mon cœur? Où en est ma générosité? Est-ce que j'ai attaché mon cœur à mes avoirs? Est-ce que je sais me libérer de mes possessions? La générosité est la meilleure expression pour nous de montrer que nous ne sommes pas possédés par l'argent. Parce que dans la vie, le problème, ce n'est pas de posséder l'argent. Le problème, c'est d'être possédé par l'argent. Le problème, ce n'est pas d'avoir de l'argent. Le problème, c'est que l'argent nous aille et nous est bloqué. Au point qu'à l'intérieur de notre tête, tout ce qui est à l'intérieur n'est qu'argent. Et la Bible dit l'amour de l'argent. C'est quand l'argent entre à l'intérieur de toi que ça devient un vrai mal. Quand tu l'utilises, il n'y a pas de problème. Mais quand ça commence à entrer à l'intérieur de toi, ça devient un mal incroyable. Et l'une des belles manières de permettre à ce que l'argent ne prenne pas contrôle sur toi, c'est d'apprendre à partager tes possessions. Ça s'appelle de la générosité. C'est pas comme si j'en aurais jamais besoin dans la vie. C'est pas comme si j'en ai tellement trop que je ne sais pas quoi en faire. Mais je puise dans ce que j'ai pour partager avec les autres. Quand tu fais le bilan de tes finances, tu devras te poser cette question. Est-ce que mon cœur est toujours prêt à laisser partir, à partager ce que j'ai? La générosité, mes amis, réordonne le cœur. La générosité réordonne le cœur. La générosité redonne un ordre nouveau au cœur. Ça réorganise le cœur. Quand tu sens dans ton, tu commences à avoir l'impression que dans ton cœur, tu sais pas où je suis. Est-ce que quelque chose est entré dedans? Est-ce que c'est de l'orgueil? Est-ce que je suis devenu, pendant ce moment-là, le meilleur réflexe? Fais du bien à quelqu'un. Prends tes biens. Prends ce que tu as avec toi. Ton argent, tes habits, donne. Partage. La générosité. Chaque fois que tu libères ce que tu as, ton cœur se redresse. Matthieu 6, 24 dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il ira, il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est clair, mes amis. Tu ne peux pas avoir un cœur pour deux maîtres. Tu ne peux pas servir l'argent. 1 Timothée 6, 6 à 10 dit, c'est en effet une grande source de gain qu'est la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Paul montre cet équilibre. Il montre les ressources nécessaires. Lorsqu'on en a, on ne fait plus la quête aux ressources supplémentaires. Il dit, si on a mangé, boire, vêtir, ça nous suffit. Ça, c'est déjà bon. C'est déjà le fondamental. Mais quand on commence à faire une quête de vie, en quête d'avoir ces autres éléments supplémentaires qui deviennent notre définition sociale, on commence à aimer l'argent. Cette route-là, ça mène à la perdition. Il n'a pas dit, l'argent vous tue. Si vous en avez, vous avez de l'argent pour lequel vous ne savez pas quoi en faire, c'est pas bien. Chaque fois que vous avez de l'argent, vous devez en faire quelque chose, sinon vous allez tomber dans l'amour de l'argent. Non, il n'est pas en train de dire que vous ne devez pas avoir la marge, vous ne devez pas avoir de l'épargne ou quoi que ce soit. Il est juste en train de dire, ne cherchez pas l'argent pour l'argent. Le fait de le posséder ne devienne pas votre identité. Ne cherchez pas l'argent pour qu'en l'ayant eu, vous sentez valoir quelque chose. Ça voudra dire alors que l'argent vous possède. Apprenez à être généreux. C'est un médicament fort. C'est la cure de cette forme d'orgueil. Généreux. Partagez. Donnez sans avoir besoin qu'on vous donne. Et Jésus disait, donnez en particulier à ceux qui ne peuvent pas vous rendre l'appareil. Il est temps, vous le savez, le temps des 10 questions. Durant toute cette semaine, j'ai pris l'habitude de vous donner 10 bonnes questions parce que si on parle de bilan, vous devez quand même avoir un genre de checklist, une liste vers laquelle vous devez aller point après point pour être capable de faire un bon bilan. Et je vous ai proposé chaque fois 10 questions. Il n'y en a pas que 10, mais au moins 10, c'est suffisant, n'est-ce pas, pour qu'on puisse bien ruminer, se souvenir et bien questionner, toucher la patte intérieure du sujet. En répondant à ces questions, vous ferez un bon bilan et vous deviendrez un meilleur disciple dans ce domaine-là. Voici les 10 questions pour un bilan financier qu'un enfant de Dieu est en train de faire. 1. Ai-je un budget mensuel réel et respecté? Est-ce que j'ai un budget mensuel ou trimestriel ou annuel, mais un budget réel et respecté? Pasteur, je n'aime pas vivre selon le budget parce que je ne veux pas vivre selon la vue. Je vis selon la foi. Tu peux faire des budgets et puis des fois, ça empêche à croire en Dieu qui va m'amener l'argent. Mon ami, c'est beau ce que tu dis. C'est spirituellement intéressant. C'est très... Je te donne raison et je ne suis pas contre ça. Seulement, quand tu espères un miracle, c'est quoi la situation miraculeuse? Tu t'attends à quoi? Si tu n'évalues pas bien ton besoin, tu n'évalueras pas bien ta solution. Si tu ne connais pas la force de ton ennemi, tu n'honoreras pas ton sauveur. Si tu ne sais pas ce qui t'a lié, tu n'apprécieras pas le secours. Si tu ne connais pas ton budget, tu ne sauras pas de quoi ton Dieu est capable. Il est important de savoir dans quoi on s'engage, pour que lorsque Dieu te le donne, tu reconnaisses que c'était Dieu qui me donne. De fois, on a un budget. Et Dieu commence à nous donner petit à petit. Mais parce qu'on sait l'argent, le montant qu'on veut rassembler, on peut reconnaître que Dieu a commencé déjà à nous donner des morceaux de pain. Un manque de budget, c'est une erreur fondamentale dans la gestion. Avant de sortir l'argent, on doit savoir combien il faut. Avant de sortir l'argent. Ai-je un budget mensuel, réel ou annuel ou trimestriel? Est-ce que j'ai un budget réel que je respecte? Pourquoi on pense à l'argent et on fixe de l'argent avant d'en sortir? Parce que quand on a l'argent, il y a un semblant de pouvoir. Et quand l'argent s'en va, on perd ce pouvoir. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais un peu d'argent dans ma poche, je ne sais pas pour vous, mais je sais pas, peut-être moi j'étais bizarre. Mais quand j'avais un peu d'argent dans ma poche vers mon adolescence, dès que j'ai un peu d'argent, je n'avais même plus faim. C'est-à-dire que j'ai plus faim. En fait, quand je pense à manger, je me souviens que j'ai le pouvoir de m'acheter ce que je veux. Je cesse d'avoir faim. Et tu sais, quand j'arrivais à la maison, je vois ce qu'on a préparé. J'avais le choix. Je dis, non, qu'est-ce qu'on a préparé? Non, ah, pas ça. Je vais au coin de la rue, je vais à une boutique, je vais à un endroit. Les gens qui vendent des trucs brisés, j'achète ce que je veux et je reviens. Mais quand j'en avais pas, la Bible est vraiment vraie. Même les nourritures les plus amères, c'était bon. Quand j'en avais pas, j'avais pas de questions à poser. Je venais, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai resté quand on dit, attends, je reste. Mais quand j'avais de l'argent, je dis, mais la nourriture n'est pas toujours prête. Oh, je vais m'acheter quelque chose. Mais quand j'en ai pas, la nourriture n'est pas prête. Je reste. Je vais regarder tous les dessins animés jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Pourquoi? Parce que je veux à tout prix accomplir ma volonté parce que j'ai des moyens. J'ai des moyens, donc je suis libre. Est-ce que vous avez réellement un budget pour vous? Regardons ensemble la deuxième question. La deuxième question dit ceci. Le montant d'épargne, mon épargne, est-ce que j'en ai réellement? Est-ce que j'épargne comme il se doit? Est-ce que mon taux d'épargne couvre et est suffisant pour prendre en charge ce que je fais? Est-ce que tu épargnes, frères et sœurs? Est-ce que tu épargnes? Est-ce que tu peux au moins avoir un taux d'épargne d'au moins un mois? Ou tu te dis, j'ai au moins un mois d'épargne. Si on parle des finances, on parle d'avoir de l'argent et d'immobiliser l'argent. De le mettre de côté. Vous vous souvenez de ce que Joseph avait donné comme conseil au Pharaon? Il dit, quand vous en allez en avoir, mettez de côté. Pendant ce mois, qu'est-ce que tu as immobilisé de ce qui est passé entre tes mains? Pendant ce mois, combien as-tu mis de côté? Ton taux d'épargne couvre-t-il ne fût-ce qu'un mois? Un seul mois. Quand tu regardes l'argent que tu as de côté, si tu ne pouvais pas travailler, s'il n'avait rien, si tu ne pouvais rien faire aujourd'hui, ce que tu as mis de côté, est-ce que ça peut te permettre de couvrir ne fût-ce qu'un seul mois? Ça, c'est une question importante dans ton évaluation. Troisième question. Regarde bien. Quand on parle de faire un bilan financier, on doit toujours se poser cette question. Quel est mon niveau de dette? Quel est mon niveau de dette? Vous faites votre évaluation financière, vous devez savoir qu'une partie de votre argent n'est pas à vous. Vous l'aviez déjà donné à quelqu'un d'autre. C'est pas à vous. Vous l'aviez déjà donné à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas. N'oubliez pas qu'une partie de votre salaire est à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas qu'une partie de vos dividendes est à quelqu'un d'autre. Mais non, mais pasteur, je travaillais seul. Mais la personne chez qui vous êtes endetté, savez-vous pourquoi quelqu'un qui vous donne une dette met des intérêts? Vous savez pourquoi? Quelqu'un vous demande de payer avec intérêt une dette parce qu'il sait que vous êtes capable de produire plus que ce que vous lui avez demandé. C'est ça la raison des intérêts. En fait, on est en train de te donner un message que je crois que tu es capable de produire plus que tu me demandes. Tu me demandes 50, je crois que tu es capable de produire jusqu'à 73. Et donc, moi, je prendrai les 13 là parce que je t'ai donné très tôt ce que tu voulais obtenir. Quelles sont les dettes que tu as? Que ce soit le crédit à la banque, tu dois quoi à qui? Si tu ne sais pas les dettes que tu as, sache que le moment où tu croiras avoir de l'argent et que la dette passe par là, tu te sens directement pauvre. J'ai vu des gens déprimés avoir entre leurs mains de l'argent, dire « Oh, finalement, le Seigneur m'a béni. » Et ils se rendent compte que le Seigneur l'a béni, mais hier l'avait appauvri. Il y a des bénis d'aujourd'hui qui sont pauvres à cause de leur choix d'hier. Il y a de bénis de demain, mais qui sont obligés de les partager avec quelqu'un à cause de leur choix d'aujourd'hui. Il faut savoir quel est le taux de dette que tu as. Quatrième point. La quatrième chose qu'il faut savoir, la quatrième question qu'on doit se poser quand on est en train de faire une évaluation pour essayer de savoir comment fonctionne mon budget, suis-je transparent en ce qui concerne les finances? Et que je suis capable de ne pas présenter des mensonges et mentir sur les sujets des finances. Suis-je suffisamment transparent là-dessus? Je ne sais pas avec qui vous travaillez sur les finances. Votre femme, votre mari, vos enfants, savez-vous ouvrir le sujet des finances à table de manière transparente? Savez-vous clairement rendre ce sujet disponible? La transparence de vos finances. Est-ce que le système est tel que vous savez vous retrouver et quelqu'un d'autre peut se retrouver? Quelqu'un, votre femme, votre mari peut-il aller dans vos finances et se retrouver? Est-ce qu'il y a un rapport clair? Il y a quelque chose, est-ce que c'est suivable? Ou bien il y a plein de mensonges et on ne peut pas s'y maintenir à l'intérieur? Vous devez vous poser ce type de questions-là. Alors, voici une autre question à se poser. Quand on est en train de faire un bilan des finances. Cinquième question. Quand on fait son bilan des finances, on doit se demander quels sont mes revenus que je donne? Quel est le pourcentage de mes revenus que je donne? Dans ce que j'ai, combien est censé aller chez les autres? Combien est censé aller chez Dieu? Combien est censé aller chez les autres? Dans tout ce que tu as en tant qu'être humain et que tu possèdes et que tu reçois, que tu gagnes, tout n'est pas à toi. Une partie de ce que tu as est pour la générosité. Et si tu ne te poses pas la question de quel est le taux de pourcentage de ce que j'obtiens qui n'est pas censé rester entre mes mains, c'est que tu n'es pas un bon gestionnaire. Parce que tu as pris et la dîme du Seigneur et tout ce qu'il y a au Seigneur, et tu as pris la part de la générosité du pauvre que tu devais lui donner, et tu crois être riche. En fait, tu fais des calculs de vie avec un montant qui n'est pas correct. Une partie de cet argent est volée. Volée à Dieu, volée aux pauvres, volée à la générosité. Tu dois te poser la question, quel est le pourcentage dans ce que je gagne? Quel est le taux de pourcentage qui est censé être donné? Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Sixièmement, quand on parle de quelque chose d'autre qu'on peut donner, quelque chose, quand on parle plutôt de bilan financier, on doit aussi se poser cette question. Mes dépenses reflètent-elles mes valeurs? Le royaume de Dieu, la famille, la société? Quand je sors l'argent, est-ce que ça ressemble à ce que je crois? Sachez-le bien que la foi d'une personne se manifeste même dans ses achats. Vous avez déjà rencontré un frère, un ami, qui est allé, je sais pas moi, au Tibet quelque part, qui est allé dans quel pays du monde, qui a fait une retraite spirituelle. Quand il revient, il te dit, regarde ce petit vase que j'avais acheté, ça amène le calme dans la maison. Il achète des trucs zen, et même dans ses tenues, il a changé façon de s'habiller en lin. Si tu vas dans sa carte bancaire, tu vas regarder ses dépenses dictées par ses nouvelles croyances. Ce que tu crois se reflète dans tes reçus bancaires. Ce que tu crois se reflète dans ton rapport des dépenses. Est-ce que quand tu regardes tes dépenses, ça ressemble au chrétien que tu es? Est-ce que ça ressemble au royaume de Dieu auquel tu crois? Tu dépenses dans quoi? Ça, ça te permet de bien évaluer. Septièmement, pose-toi cette question. Ai-je des souscriptions achats impulsifs à couper? Il y a des souscriptions, il y a des achats impulsifs que je dois couper. Souscriptions impulsives, j'ai dit, dans ce monde où nous sommes, tout le temps on te dit abonnez-vous. On te donne d'abord en libre, en free, tu testes et tu t'abonnes. On te dit d'abord, avant même de tester, abonne-toi déjà, ça va commencer à couper. Vous savez, quand tu ne vois pas l'argent partir du coup, on te dit, non, après 30 jours, on va te le prendre. Tu regardes demain ta carte, tu as plus de 20 à 30 souscriptions dans différents sites internet pour des choses même tu n'en avais plus besoin. De quoi est remplie ta carte? Est-ce que tu achètes parce que tu en as besoin ou parce que c'est beau? Est-ce que tu achètes parce que c'est nouvellement sorti ou parce que c'est utile? Et huitièmement, la question que tu dois te poser, c'est ai-je investi dans la compétence? Ma compétence. Est-ce que j'ai mis mes moyens pour devenir meilleur? La Bible dit, avec tout ce que tu as, donne, échange, acquiert l'intelligence. C'est ça le texte dans Proverbe. Il dit, avec tout ce que tu as, avec toute ta possession, acquiert l'intelligence. C'est-à-dire, échange tes avoirs, paye, dépense pour être plus intelligent, pour être formé. En faisant un bilan financier, tu dois te poser la question, combien j'investis à ma formation, au développement de mes compétences? Ton argent, ce n'est pas que pour t'habiller, manger et vivre et donner. Ton argent, c'est aussi pour acquérir des compétences que tu n'avais pas. Et après, le prochain point, 9. Suis-je en règle avec les impôts, les contrats, les factures? Suis-je en règle? Un chrétien doit toujours vivre en se posant la question, est-ce que l'argent que j'ai dans ma maison, c'est vraiment mon argent? Parce que des fois, tu as l'argent, une partie est à la dette, une autre est aux impôts, une autre est un contrat que tu avais déjà signé. Tu vois l'argent apparaître sur ton compte, mais ce n'est plus ton argent. Je pense que si tous ceux à qui nous devons devaient venir le jour de notre salaire, il y aurait toujours un parking rempli. Il y a les gens d'Amazon, les gens de Free, les gens d'Internet, de YouTube, les gens de ce qu'est l'application, ceux de câble Internet. Tu aurais plein de gens de différents... Chacun est venu prendre sa part. Mais il y aurait aussi l'État. Il y aurait les gens de l'impôt et des taxes. Quand tu fais ton bilan financier, pose-toi la question. Quel est les dus de l'État et des engagements que j'ai? Parce que si tu veux vivre une vie de finances aisée, tu dois apprendre à tenir tes engagements. Et la dixième question, c'est quelle décision financière l'Esprit me demande aujourd'hui? Le Seigneur, s'il dirige tes finances, il doit être capable de te dire aussi. Voilà ce que tu dois faire de ton argent. Quand tu es en quête de la voix intérieure de Dieu, Seigneur, guide-moi, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire, comment je dois prier, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois commencer une œuvre spirituelle, je dois commencer une église, je dois rassembler les gens. Tu dois être capable d'entendre cette voix-là quand elle veut te parler de l'argent aussi. Quoi en faire et où investir cet argent-là? Frères et sœurs, c'est important. En tant qu'enfant de Dieu, d'apprendre à veiller, à faire un véritable bilan de nos finances, de ce que nous avons et de comment nous l'avons géré. Et après cela, ça devient important qu'on puisse faire un véritable plan, qu'on planifie comme il se doit comment on va désormais gérer nos finances. Qu'est-ce qu'on va investir ici, demain? Il faut qu'il y ait un plan d'exécution. Si tu laisses ça comme ça, ça ne se fera pas de soi-même. C'est un bon conseil que je te donne de tout mon cœur. En tant que ton frère. J'espère que cette semaine a été utile pour évaluer ces choses. Très utile. Chaque jour, nous, on évalue ce que nous avons pour voir si nous pouvons faire ce travail ou pas. Jusqu'ici, on veut ouvrir quelque chose, ma Bible, l'application, est-ce qu'on en a assez de moyens? C'est sur base de ça, en évaluant, en faisant ces bilans, qu'on se rend compte qu'on a encore besoin de vous et qu'on va avoir encore besoin de vous, frères et sœurs. en tant que donateur, en tant que partenaire. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de commencer à donner régulièrement à EMCI TV pour contribuer à tous ces projets qui sont devant nous, à toutes ces choses pour l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, devenez partenaire maintenant. Il suffit d'aller sur emcitv.com/don. Vous trouverez un bon formulaire où vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir comment donner régulièrement, comment donner ponctuellement, selon que le Seigneur vous mettra à cœur ce que vous pouvez donner pour permettre à cette œuvre d'évoluer. Et j'aimerais vous rappeler combien nous sommes remplis de gratitude pour les efforts que chacun d'entre vous fait pour cette œuvre. Bienvenue dans la grande famille de partenaires, partenaires de MCI. Mais il y a aussi cette famille de tous ceux qui sont les abonnés de notre chaîne YouTube. MCI TV, il suffit de vous abonner. Cliquez là pour abonner, cliquez là aussi pour que vous ayez la cloche de notification, que vous sachiez ce qui se passe. Nous voulons le faire vraiment avec vous. Dieu vous bénisse, on se voit la semaine prochaine.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.